Chapitre 263. Vision d'Athos. Quand cet évanouissement d'Athos eut cessé, le comte, presque honteux d'avoir faibli devant cet événement surnaturel, s'habilla et demanda un cheval, bien décidé à se rendre à Blois, pour nouer des correspondances plus sûres, soit avec l'Afrique, soit avec D'Artagnan ou Aramis. En effet, cette lettre d'Aramis instruisait le comte de l'affaire du mauvais succès de l'expédition de Belle-Île. Elle lui donnait, sur la mort de Porthos, assez de détails pour que le cœur si tendre et si dévoué d'Athos fût ému jusqu'en ses dernières fibres. Athos voulut donc aller faire à son ami Porthos une dernière visite. Pour rendre cet honneur à son ancien compagnon d'armes, il comptait prévenir D'Artagnan, l'amener à recommencer le pénible voyage de Belle-Île, accomplir en sa compagnie ce triste pèlerinage au tombeau du géant qu'il avait tant aimé, puis revenir dans sa maison pour obéir à cette influence secrète qui le conduisait à l'éternité par ses chemins mystérieux. Mais à peine les valets, joyeux, avaient-ils habillé leur maître, qu'ils voyaient avec plaisir se préparer à un voyage qui devait dissiper sa mélancolie, à peine le cheval le plus doux de l'écurie du comte était-il sellé et conduit devant le perron, que le père de Raoul sentit sa tête s'embarrasser, ses jambes se rompre, et qu'il comprit l'impossibilité où il était de faire un pas de plus. Il demanda à être porté au soleil. On l'étendit sur son banc de mousse, où il passa une grande heure avant de reprendre ses esprits. Rien n'était plus naturel que cette atonie après le repos inerte de ces derniers jours. Athos prit un bouillon pour se donner des forces et trempa ses lèvres desséchées dans un verre plein du vin qu'il aimait le mieux, ce vieux vin d'Anjou mentionné par le bon Porthos dans son admirable testament. Alors, réconforté, libre d'esprit, il se fit amener son cheval. Mais il lui fallut l'aide des valets pour monter péniblement en selle. Il ne fit point 100 pas. Le frisson s'empara de lui au détour du chemin. « Voilà qui est étrange, » dit-il à son valet de chambre qui l'accompagnait. « Arrêtons-nous, monsieur, je vous en conjure, » répondit le fidèle serviteur. « Voilà que vous pâlissez. » « Cela ne m'empêchera pas de poursuivre ma route, puisque je suis en chemin, » répliqua le comte. Et il rendit les rênes à son cheval. Mais soudain, l'animal, au lieu d'obéir à la pensée de son maître, s'arrêta. Un mouvement dont Athos ne se rendit pas compte avait serré le mort. « Quelque chose, dit Athos, veut que je n'aille pas plus loin. « Soutenez-moi, ajouta-t-il en étendant les bras. « Vite, approchez, je sens tous mes muscles qui se détendent et je vais tomber de cheval. » Le valet avait vu le mouvement fait par son maître en même temps qu'il avait reçu l'ordre. Il s'approcha vivement, reçut le comte dans ses bras, et, comme on n'était pas encore assez éloigné de la maison pour que les serviteurs demeuraient sur le seuil de la porte pour voir partir M. de la Fère, n'aperçut pas ce désordre dans la marche ordinairement si régulière de leur maître, le valet de chambre appela ses camarades du geste et de la voix. Alors, tous accoururent avec empressement. À peine Athos eut-il fait quelques pas pour retourner vers sa maison qu'il se trouva mieux. Sa vigueur sembla renaître, et la volonté lui revint de pousser vers Blois. Il fit faire une volte à son cheval. Mais, au premier mouvement de celui-ci, il retomba dans cet état de torpeur et d'angoisse. « Allons, décidément, murmura-t-il, on veut que je reste chez moi. » Ses gens s'approchèrent. On le descendit de cheval. Et tous le portèrent en courant vers sa maison. Tout fut bientôt préparé dans sa chambre. Ils le couchèrent dans son lit. « Vous ferez bien attention, leur dit-il en se disposant à dormir, que j'attends aujourd'hui même des lettres d'Afrique. » « Monsieur apprendra sans doute avec plaisir que le fils de Blaisois est monté à cheval pour gagner une heure sur le courrier de Blois, » répondit le valet de chambre. « Merci, » répondit Athos avec son sourire de bonté. Le comte s'endormit. Son sommeil anxieux ressemblait à une souffrance. Celui qui le veillait vit sur ses traits poindre, à plusieurs reprises, l'expression d'une torture intérieure. Peut-être Athos rêvait-il. La journée se passa. Le fils de Blaisois revint. Le courrier n'avait pas apporté de nouvelles. Le comte calculait avec désespoir les minutes. Il frémissait quand ces minutes avaient formé une heure. L'idée qu'on l'avait oublié là-bas lui vint une fois et lui coûta une atroce douleur au cœur. Personne dans la maison n'espérait plus que le courrier arrivât. Son heure était passée depuis longtemps. Quatre fois, l'express envoyé à Blois avait réitéré son voyage et rien n'était venu à l'adresse du comte. Athos savait que ce courrier n'arrivait qu'une fois par semaine. C'était donc un retard de 8 mortels jours à subir. Il commença la nuit avec cette douloureuse persuasion. Tout ce qu'un homme malade et irrité par la souffrance peut ajouter de sombres suppositions à des probabilités déjà tristes, Athos l'entassa pendant les premières heures de cette mortelle nuit. La fièvre monta. Elle envahit la poitrine, où le feu prit bientôt, suivant l'expression du médecin qu'on avait ramené de Blois au dernier voyage du fils de Blaisois. Bientôt, elle gagna la tête. Le médecin pratiqua successivement 2 saignées qui la dégagèrent, mais qui affaiblirent le malade et ne laissèrent la force d'action qu'à son cerveau. Cependant, cette fièvre redoutable avait cessé. Elle assiégeait de ses derniers battements les extrémités engourdies. Elle finit par céder tout à fait lorsque minuit sonna. Le médecin, voyant ce mieux incontestable, regagna Blois après avoir ordonné quelques prescriptions et déclaré que le comte était sauvé. Alors commença pour Athos une situation étrange, indéfinissable. Libre de penser, son esprit se porta vers Raoul, vers ce fils bien-aimé. Son imagination lui montra les champs de l'Afrique aux environs de Djigéli, où M. de Beaufort avait dû débarquer avec son armée. C'étaient des roches grises, toutes verdies en certains endroits par l'eau de mer, quand elle vient fouetter la plage pendant les tourmentes et les tempêtes. Au-delà du rivage, diaprées de ces roches semblables à des tombes, montait en amphithéâtre, parmi les lentisques et les cactus, une sorte de bourgade pleine de fumée, de bruits obscurs et de mouvements effarés. Tout à coup, du sein de cette fumée se dégagea une flamme qui parvint, bien qu'en rampant, à couvrir toute la surface de cette bourgade et qui grandit peu à peu, englobant tout dans ses tourbillons rouges. Pleurs, cris, bras étendus au ciel. Ce fut, pendant un moment, un pêle-mêle affreux de madriers s'écroulant, de lames tordues, de pierres calcinées, d'arbres grillés disparus. Chose étrange, dans ce chaos où Athos distinguait des bras levés, où il entendait des cris, des sanglots, des soupirs, il ne vit jamais une figure humaine. Le canon tonnait au loin, la mousqueterie pétillait, la mer mugissait, les troupeaux s'échappaient en bondissant sur les talus verdoyants. Mais pas un soldat pour approcher la mèche auprès des batteries de canons, pas un marin pour aider à la manœuvre de cette flotte, pas un pasteur pour ses troupeaux. Après la ruine du village et la destruction des forts qui le dominaient, ruine et destruction opérées magiquement, sans la coopération d'un seul être humain, la flamme s'éteignit, la fumée recommença de monter, puis diminua d'intensité, pâlit et s'évapora complètement. La nuit, alors, se fit dans ce paysage. Une nuit opaque sur terre, brillante au firmament. Les grosses étoiles flamboyantes qui scintillent au ciel africain brillaient sans rien éclairer qu'elles-mêmes autour d'elles. Un long silence s'établit qui servit à reposer un moment l'imagination troublée d'Athos, et comme il sentait que ce qu'il avait à voir n'était pas terminé, il appliqua plus attentivement les regards de son intelligence sur le spectacle étrange que lui réservait son imagination. Ce spectacle continua bientôt pour lui. Une lune douce et pâle se leva derrière les versants de la côte et moirant d'abord des plis onduleux de la mer, qui semblait s'être calmée après les mugissements qu'elle avait fait entendre pendant la vision d'Athos. La lune, disons-nous, vint attacher ses diamants et ses opales aux broussailles et aux halliers de la colline. Les roches grises, comme autant de fantômes silencieux et attentifs, semblèrent dresser leurs têtes verdâtres pour examiner aussi le champ de bataille à la clarté de la lune, et Athos s'aperçut que ce champ, entièrement vide pendant le combat, était maintenant jonché de corps abattus. Un inexprimable frisson de crainte et d'horreur saisit son âme quand il reconnut l'uniforme blanc et bleu des soldats de Picardie, leurs longues piques aux manches bleues et leurs mousquets marqués de la fleur de lys à la crosse. Quand il vit toutes les blessures béantes et froides regarder le ciel azuré, comme pour lui redemander les âmes auxquelles elles avaient livré passage. Quand il vit les chevaux, éventrés, mornes, la langue pendante de côté hors des lèvres, dormir dans le sang glacé répandu autour d'eux et qui souillait leurs housses et leurs crinières. Quand il vit le cheval blanc de M. de Beaufort étendu, la tête fracassée, au premier rang sur le champ des morts. Athos passa une main froide sur son front, qu'il s'étonna de ne pas trouver brûlant. Il se convainquit par cet attouchement qu'il assistait, comme un spectateur sans fièvre, au lendemain d'une bataille livrée sur le rivage de Gigelli par l'armée expéditionnaire, qu'il avait vu quitter les côtes de France et disparaître à l'horizon, et dont il avait salué de la pensée et du geste la dernière lueur du coup de canon envoyé par le duc en signe d'adieu à la patrie. Qui pourra peindre le déchirement mortel avec lequel son âme, suivant comme un œil vigilant la trace de ses cadavres, les alla tous regarder les uns après les autres, pour reconnaître si, parmi eux, ne dormait pas Raoul? Qui pourra exprimer la joie enivrante, divine, avec laquelle Athos s'inclina devant Dieu et le remercia de n'avoir pas vu celui qu'il cherchait avec tant de crainte parmi les morts? En effet, tombés morts à leur rang, roidis, glacés, tous ces morts, bien reconnaissables, semblaient se tourner avec complaisance et respect vers le comte de la Fère pour être mieux vus de lui pendant son inspection funèbre. Cependant, il s'étonnait, voyant tous ces cadavres, de ne pas apercevoir les survivants. Il en était venu à ce point d'illusion que cette vision était pour lui un voyage réel fait par le père en Afrique pour obtenir des renseignements plus exacts sur le fils. Aussi, fatigué d'avoir tant parcouru de mers et de continents, il cherchait à se reposer sous une des tentes abritées derrière un rocher et sur le sommet desquelles flottait le pennon blanc fleur-de-lysé. Il chercha un soldat pour être conduit vers la tente de M. de Beaufort. Alors, pendant que son regard errait dans la plaine, se tournant de tous les côtés, il vit une forme blanche apparaître derrière les myrtes résineux. Cette figure était vêtue d'un costume d'officier. Elle tenait en main une épée brisée. Elle s'avança lentement vers Athos, qui, s'arrêtant tout à coup et fixant son regard sur elle, ne parlait pas, ne remuait pas, et qui voulait ouvrir ses bras parce que, dans cet officier silencieux et pâle, il venait de reconnaître Raoul. Le comte essaya un cri qui demeura étouffé dans son gosier. Raoul, d'un geste, lui indiquait de se taire en mettant un doigt sur sa bouche et en reculant peu à peu, sans qu'Athos vît ses jambes se mouvoir. Le comte, plus pâle que Raoul, plus tremblant, suivit son fils en traversant péniblement bruyères et buissons, pierres et fossés. Raoul ne paraissait pas toucher la terre et nul obstacle n'entravait la légèreté de sa marche. Le comte, que les accidents de terrain fatiguaient, s'arrêta bientôt épuisé. Raoul lui faisait toujours signe de le suivre. Le tendre père, auquel l'amour redonnait des forces, essaya un dernier mouvement et gravit la montagne à la suite du jeune homme, qui l'attirait par son geste et son sourire. Enfin, il toucha la crête de cette colline et vit se dessiner en noir, sur l'horizon blanchi par la lune, les formes aériennes, poétiques de Raoul. Athos étendait la main pour arriver près de son fils bien-aimé, sur le plateau, et celui-ci lui tendait aussi la sienne. Mais soudain, comme si le jeune homme eût été entraîné malgré lui, reculant toujours, il quitta la terre, et Athos vit le ciel briller entre les pieds de son enfant et le sol de la colline. Raoul s'élevait insensiblement dans le vide, toujours souriant, toujours appelant du geste. Il s'éloignait vers le ciel. Athos poussa un cri de tendresse effrayée. Il regarda en bas. On voyait un camp détruit et, comme des atomes immobiles, tous ces blancs cadavres de l'armée royale. Et puis, en relevant la tête, il voyait toujours, toujours son fils qui l'invitait à monter avec lui.